juste le temps d'un petit générique et on se retrouve avec Michel et Corinne pour parler astronomie.
La Terre, elle brille en fait, elle est d'un bleu brillant, elle luit.
Houston, we have a problem.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
L'histoire de l'espace.
Puis la Terre, c'est immense, on est vraiment tout petit.
En visitant des planètes, nous sommes de nouveau Christophe Colomb qui découvrons des terres nouvelles qui jusqu'à présent n'étaient que des petits points de lumière dans le ciel, d'une part. Et d'autre part, nous plaçons des engins qui reçoivent les lumières X, gamma, infrarouge, ultraviolet, de toutes les longueurs d'onde. Et ces lumières de toutes les longueurs d'onde nous apportent toute l'information des astres, information que jusqu'à présent nous n'avions pas.
Creating a self-sustaining civilization on Mars. It would be the greatest adventure ever.
Voilà, on est toujours en direct en ce mercredi 6 juillet. Voilà, on va d'ailleurs tout de suite accueillir nos invités, même si Michel, vous faites partie de la famille. Quand je dis invité, vous êtes un invité. Michel Favre, bonjour, bienvenue à Odo Radio.
Bonjour Joël.
Voilà notre rendez-vous avec cette magnifique chronique astro. Et on a le plaisir également de voir avec nous Corinne. Bonjour Corinne.
Bonjour Joël.
Donc présidente de l'association AG33. Et puis je crois qu'après la chronique, on va parler de Hans Monogen parce que l'association vous a avez préparé de belles animations hein, ce vendredi.
Oui, tout à fait.
À Sokats.
Oui. On va voir la Lune.
Voilà, mais on va en parler, si vous voulez bien, Corinne, c'était histoire de vous faire un petit coucou. On va écouter comme il se doit la chronique, et puis après, voilà, vous aurez l'occasion de nous présenter les événements et puis nous expliquer, hein, on the moon again. Bon, j'étais chercher quelques infos pour comprendre, voilà, en quoi consistait cette manifestation. Allez, Michel, tout de suite, eh bien, votre chronique astro. Alors, vous allez parler de l'actu, et vous allez revenir sur le JWST, bon, c'est en anglais pour la chronique. Le James Webb Space Telescope qui a été victime alors d'un petit bobo.
Voilà, nous suivons toujours le feuilleton, si je peux dire, de la mise en service du JWST, James Webb Space Telescope, le nouveau télescope spatial de la NASA, qui se déroule sur plusieurs mois depuis son lancement le 25 décembre. Son déploiement pendant son trajet jusqu'à sa destination à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre, puis toute la phase de réglage de son optique et de la calibration de ses instruments. Jusque-là, tout allait pour le mieux, mais la NASA a annoncé fin mai qu'un des segments hexagonaux de son miroir primaire avait été frappé par une micrométéorite entre le 23 et le 25 mai, provoquant un microcratère qui dégradera un peu les performances optiques du télescope. Comme l'espace interplanétaire est parcouru par des poussières de toute taille, ce genre d'événement était prévu et les scientifiques avaient modélisé cette lente dégradation des performances du JWST au fil du temps. En fait, c'est le cinquième impact constaté depuis le lancement, mais ce qui surprend dans cet événement, c'est que l'impact est plus fort que ce qui avait été statistiquement prévu. On doit donc réviser les calculs avec une dégradation qui pourrait être un peu plus rapide que prévu. À court terme, ce choc nécessite de réajuster l'alignement des miroirs, ce qui explique certainement le retard pris dans la mise en service du télescope, car on attendait les premières images scientifiques en juin. Les dernières nouvelles sur le site de la NASA indique que les instruments sont en cours de recalibrage et qu'il est prévu la publication d'une première image en couleur et de données spectroscopiques le 12 juillet, donc la semaine prochaine.
Et un petit tour du côté de Mercure.
En effet, il y a une dizaine de jours, le 23 juin dernier, la planète la plus proche du Soleil a été frôlée par la sonde européenne BepiColombo, à quand même 200 km de sa surface, ce qui est quand même deux fois moins que l'orbite de l'ISS, la Station Spatiale Internationale, par rapport à la Terre. À cette occasion, les caméras de navigation de la sonde ont photographié la surface qui est criblée de cratères, un peu comme celle de la Lune. Nos auditeurs fidèles pourraient croire que je me répète, car j'avais déjà annoncé ici en octobre 2021 que BepiColombo avait survolé Mercure. En effet, cette sonde lancée le 19 octobre 2018 suit une trajectoire complexe en utilisant l'effet de fronde gravitationnelle, c'est-à-dire le passage à proximité d'une planète pour accélérer ou ralentir. À plusieurs reprises, une fois la Terre, deux fois Vénus et plusieurs fois Mercure, elle doit encore le faire quatre fois avant de pouvoir se mettre en orbite autour de cette planète le 5 décembre 2025. Je rappelle que l'exploration de Mercure n'a pas concerné beaucoup de sondes depuis les débuts de l'ère spatiale, car après Mariner 10 dans les années 1974-75, il faut attendre plus de 30 ans pour que la NASA envoie la sonde Messenger, qu'il a étudiée en orbite de mars 2011 à avril 2015, et il faudra donc 10 ans de plus pour qu'elle reçoive la visite de cette première sonde européenne. En fait, une coopération entre l'ESA, l'agence spatiale européenne, et la JAXA, l'agence spatiale japonaise. Arrivée à destination, elle se scindra en deux, avec un module européen, MPO, pour Mercury Planetary Orbiter, destiné à étudier la surface et les couches externes de l'atmosphère, qui est très très faible hein, autour de Mercure, et MMO, pour Mercury Magnetospheric Orbiter, le module japonais destiné à étudier le champ magnétique de la planète. En attendant, rendez-vous dans presque un an, le 20 juin 2023, pour le troisième survol de Mercure.
Et une autre sonde européenne nous dévoile encore un peu plus notre galaxie.
Alors il s'agit du télescope spatial européen Gaïa, lancé en 2013 et dont la mission depuis son arrivée au point de Lagrange L2, celui où se trouve aussi le JWST, consiste à mesurer avec une extrême précision la position des étoiles de la Voie lactée qui nous entoure et d'effectuer certaines mesures les concernant, comme leur vitesse angulaire, c'est-à-dire par rapport aux autres étoiles de la sphère céleste, leur vitesse radiale, c'est-à-dire dans le sens d'un rapprochement ou d'un éloignement de nous, ce qu'on peut mesurer en réalisant un spectre de la lumière qu'elle nous envoie, qui nous donne également d'autres informations, comme la température et la composition de l'étoile. On peut voir Gaïa comme un robot, car sa rotation et son déplacement sur son orbite font qu'il balaye toute la voûte céleste environ 63 jours, et le fait qu'il repasse régulièrement sur les mêmes régions du ciel affine les mesures au fur et à mesure qu'il nous renvoie des informations sur les mêmes étoiles. Les centres chargés de leur traitement produisent donc une base de données sur les étoiles qui s'enrichit au fil du temps et ils en publient des versions successives de plus en plus complètes et précises. Et c'est le nombre d'étoiles cartographiées par Gaïa qui est un véritable monstre si on la compare aux missions précédentes de ce type. La dernière, Hipparchos, déjà une mission de l'ESA qui a fonctionné entre 1989 et 1993, a produit au final en 2000 un catalogue de 2,5 millions d'étoiles. Avec Gaïa, on passe à l'échelle supérieure avec 1,3 milliard d'étoiles, publié en avril 2018, qui était sa deuxième version. Et le 13 juin dernier, c'est la troisième version du catalogue qui a été publiée par l'ESA, et elle contient presque 2 milliards d'étoiles. Les auditeurs peuvent se demander à quoi servent ces bases de données aussi énormes sur les étoiles. Eh bien, la réponse est assez simple. L'exploitation de ces données par les astronomes permet d'enrichir nos connaissances dans de multiples domaines, à commencer par une meilleure connaissance de notre galaxie, la Voie lactée, et de son histoire. Par exemple, l'étude des mouvements des étoiles permet de distinguer certains groupes ayant des déplacements différents du mouvement global de rotation de la galaxie, et cela peut s'expliquer par leur appartenance à d'anciennes petites galaxies périphériques qui ont été absorbées par la Voie lactée, qui n'ont pas fini de fusionner avec elle. La composition des étoiles nous indique leur appartenance à différentes générations d'étoiles, ce qui permet de mieux connaître les périodes de formation de nouvelles étoiles au sein de la galaxie. Mais à côté de ces objectifs primaires, l'exploitation des observations répétées des mêmes étoiles peut révéler des informations très précises sur elles, comme le fait qu'elles soient variables, c'est-à-dire que leur luminosité varie dans le temps. Et dans certains cas, cela peut correspondre à la présence autour d'elles d'exoplanètes en transit, c'est-à-dire de planètes orbitant autour d'une autre étoile que notre Soleil et qui passent entre leur étoile et nous en provoquant une petite baisse de luminosité. Ces mêmes variations d'éclat peuvent révéler aussi le passage de petits corps du système solaire, comme des astéroïdes encore inconnus, par exemple, qui peuvent être aussi détectés directement sur les images fournies par Gaïa ou de lointains noyaux cométaires. Bref, c'est une mine d'or à exploiter pendant de longues années, pour ne pas dire des décennies. Pour en finir, en relativisant la performance de Gaïa, on peut se rappeler que les 2 milliards d'étoiles de son catalogue, un nombre tout à fait considérable, ne représentent toutefois qu'environ 1% de toutes les étoiles de notre galaxie, la Voie lactée.
Voilà Michel, vous pouvez nous donner quelques nouvelles du programme lunaire de la NASA.
Alors comme un des sujets de cette chronique sera la Lune, en raison de l'opération On the Moon Again, dont nous reparlerons tout à l'heure avec Corinne, j'ai pensé utile de faire le point sur les dernières nouvelles du programme Artemis de la NASA, qui vise à renvoyer des hommes sur la Lune, peut-être dès 2025 si on est optimiste. Un des éléments clés de ce programme est le lanceur SLS pour Space Launch System, qui doit propulser la capsule Orion, construite en coopération avec l'ESA, et son équipage jusqu'à la Lune. C'est une très grosse fusée, tout à fait comparable au Saturn V utilisé dans les années 1970 pour le programme Apollo. Elle fait dans les 110 mètres de haut et près de 3000 tonnes au décollage. Elle surpasse même de 15% la puissance des Saturn V avec ses deux fusées d'appoint à poudre, dérivées de celles utilisées avec les navettes. La dernière fois, j'avais annoncé qu'elle devait quitter début juin le VAB, le Vehicle Assembly Building, l'énorme bâtiment du Kennedy Space Center en Floride, où étaient montées les grosses Saturn V du programme Apollo dans les années 1960-70, pour être amenée sur le pas de tir 39 de Cap Canaveral, celui d'où s'envolaient les capsules Apollo vers la Lune. Le trajet étant effectué en étant porté par le crawler, comme on surnomme l'énorme plateforme sur chenille, de presque 3000 tonnes, qui met dans les 6 à 8 heures pour parcourir les 5,5 km entre les deux sites. En fait, c'était la deuxième sortie du SLS vers son pas de tir, car elle avait déjà effectué ce déplacement le 19 mars dernier, mais le test complet de lancement qui devait être effectué en avril, avec le remplissage des réservoirs et toute la procédure jusqu'à 10 secondes de la mise à feu, n'avait pas fonctionné comme prévu, le remplissage des réservoirs ayant échoué. Et la fusée était donc retournée dans le VAB pour des modifications. Elle en est bien ressortie pour rejoindre son pas de tir le 6 juin dernier. L'essai nommé « Wet Dress Rehearsal », en français « Répétition générale mouillée » car on remplit les réservoirs, a été recommencé les 19 et 20 juin et s'est plutôt bien déroulé avec le remplissage réussi de la cuve de 2 millions de litres d'eau pour refroidir la base lors du décollage, ainsi que celui des réservoirs d'hydrogène et d'oxygène de la fusée. Mais il y a eu quand même des incidents mineurs et le compte à rebours a été stoppé à 29 secondes de l'allumage au lieu des 10 secondes prévues. Néanmoins, ce test est considéré comme réussi par la NASA, qui poursuit donc le déroulement du programme. Le SLS est retourné au VAB ce week-end pour résoudre les derniers petits problèmes, notamment des fuites d'hydrogène au niveau des ombiliques de la tour de lancement. Ce sont les gros tuyaux qui acheminent les fluides vers les réservoirs et doivent se déconnecter dans les dernières secondes avant le décollage. Elle pourrait retourner sur son pas de tir vers la fin août, car la prochaine étape sera un vrai décollage, pour un vol sans équipage dont l'objectif serait néanmoins d'aller jusqu'à la mise en orbite lunaire au bout d'un trajet d'environ 6 jours, rester en orbite une douzaine de jours avant de revenir sur Terre, soit en tout une mission d'environ un mois et demi. Il y a en effet une fenêtre de tir possible qui commence le 23 août pour cette mission, mais les spécialistes parient plutôt pour la suivante, entre le 20 septembre et le 4 octobre. Dans tous les cas, nous ne manquerons pas d'en reparler ici.
Voilà, puis Michel, la NASA prépare aussi les futures combinaisons pour les astronautes sur la Lune. Quelques infos.
Effectivement, à côté du SLS et de la capsule Orion, pour effectuer le trajet, la NASA travaille bien sûr aussi sur tous les dispositifs qui contribueront à se poser sur la Lune pour en explorer la surface, et notamment les scaphandres destinés aux astronautes, pour lesquels l'agence spatiale a annoncé le 1er juin qu'elle allait sous-traiter ses équipements à deux sociétés privées, Axiom Space et Collins Aerospace, dans le cadre d'un marché d'un montant global de 3,5 milliards de dollars. Il semble en effet que la NASA peinait à concevoir elle-même une nouvelle version des combinaisons lunaires, le précédent modèle étant devenu obsolète car développé dans les années 1980. Collins Aerospace est expérimentée dans ce domaine où elle travaille depuis les missions Apollo et elle a fourni ensuite les scaphandres utilisés lors des missions des navettes spatiales ou sur l'ISS. Elle a commencé à travailler sur ce nouveau modèle lunaire dès 2019. Par contre, Axiom Space n'a été fondée qu'en 2016 et s'intéresse surtout au domaine du tourisme spatial. En coopération avec SpaceX, elle a d'ailleurs envoyé des touristes en avril dernier pour quelques jours à bord de l'ISS. Elle travaillait déjà sur des projets de combinaison spatiale, notamment en vue des sorties extravéhiculaires depuis l'ISS. Je rappelle que de tels scaphandres lunaires doivent répondre à de nombreux impératifs en termes de protection et de confort des astronautes, notamment l'étanchéité totale à l'air, la résistance aux impacts de micrométéorites, la régulation thermique avec de très grands écarts de température entre les parties exposées au soleil et celles à l'ombre, entre plus 120 degrés et moins 200. Pour l'exploration lunaire, on cherche aussi à améliorer la souplesse afin de libérer au maximum les gestes du porteur et aussi de résister à la poussière lunaire, la régolithe, aussi fine que de la farine, et qui parvenait à se glisser dans les articulations des scaphandres utilisés par les missions Apollo. la NASA prévoit de passer commande des nouvelles combinaisons entre 2025 et 2034, avec la particularité qu'elles resteront la propriété du constructeur, qui aura en charge leur entretien, mais pourra aussi les exploiter dans le cadre de programmes privés. Encore un effet du New Space, qui voit les sociétés privées jouer un rôle de plus en plus grand dans le domaine spatial, et notamment pour ce qui concerne les missions lunaires. Humaines.
Oui, pardon, du coup, je vous ai coupé. Pardon, Michel. Voilà, on est toujours avec Michel Favré, c'est sa 88e chronique astro. Voilà, on est en direct, c'est notre journal de ce mercredi 6 juillet. Et là, Michel, vous allez aborder le thème du mois et l'observation de la Lune.
Voilà, nous avons déjà parlé plusieurs fois ici de la Lune, mais pour cette chronique avec l'opération On the Moon Again du week-end prochain, j'ai pensé aborder ce sujet sous un angle un peu différent en traitant de l'observation de la Lune. Comme dans l'Antiquité, nous pouvons bien sûr commencer par observer la Lune tout simplement avec nos yeux, et cela peut déjà être riche d'enseignements. On constatera facilement que son aspect change jour après jour dans un cycle se répétant environ tous les mois qu'on appelle lunaison et qui dure 29 jours et demi. La presque coïncidence avec la durée de nos mois ne doit rien au hasard, car à l'origine, les premiers calendriers ont été basés sur ce cycle et étaient donc des calendriers lunaires, ce qu'ils sont toujours d'ailleurs pour les Juifs, les musulmans ou les Chinois notamment. Dans notre calendrier grégorien, qu'on définit comme lunisolaire, nos mois rallongés à 30 et 31 jours viennent de modifications introduites par les Romains à l'époque de Jules César puis d'Auguste, afin de mieux faire coïncider le calendrier avec l'année solaire. Cette observation des cycles lunaires remonte à nos ancêtres très lointains, car on a retrouvé en Dordogne, plus précisément à l'abri Blanchard, dans la vallée de la Vézère, un os gravé vers 32 000 avant Jésus-Christ, dont les marques en spirale, recto et verso, correspondraient, selon l'expert mandaté par la NASA pour l'étudier en 1974, à l'observation du cycle lunaire sur une période d'environ 6 mois. On fait généralement commencer la lunaison avec la nouvelle lune, jour où l'on ne voit pas la lune dans le ciel, car elle est si proche du soleil qu'elle nous montre uniquement sa face non éclairée. En général, deux fois par an, cela peut coïncider aussi avec une éclipse de soleil quelque part sur Terre. Puis on voit apparaître un croissant très fin qui s'élargit au fil des jours pour atteindre en une semaine, encore une mesure du calendrier que nous devons à la Lune, le premier quartier, c'est-à-dire la moitié de la Lune éclairée. On dit quartier, c'est-à-dire quart en ancien français, car on atteint le quart de la lunaison. Ensuite, la partie éclairée est plus grande que la moitié et on dit que la Lune est gibbeuse, un terme qui vient du gaulois et qui signifie bossu. Et la partie éclairée continue de croître pendant une semaine pour atteindre la pleine Lune, c'est-à-dire le disque lunaire totalement éclairé. Deux fois par an, cela peut en général coïncider avec une éclipse de Lune qui est visible par environ la moitié de la Terre. Après la pleine Lune, la partie éclairée va diminuer jour après jour, gibbeuse pendant une semaine jusqu'au dernier quartier, puis en croissant pendant une semaine jusqu'à la nouvelle lune suivante, et le cycle recommence. Toujours à l'œil nu, il y a deux observations que l'on peut faire facilement. Quand le croissant est suffisamment petit, on peut remarquer que l'on arrive à distinguer la partie sombre de la lune faiblement éclairée. On appelle ce phénomène la lumière cendrée, et elle provient du reflet du soleil sur la Terre qui éclaire faiblement la lune, d'une teinte grise légèrement bleuâtre à cause du bleu des océans. L'autre observation possible à l'œil quand la Lune est plus grosse sont des zones plus sombres à la surface qu'on appelle des mers, par analogie avec les mers terrestres plus sombres que les continents. Mais bien sûr, on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'eau à la surface de la Lune, et ces mers sont en réalité de grandes plaines de basalte grise. Quand on est proche de la pleine Lune, on peut s'amuser à y reconnaître. Alors certains voient la silhouette d'un lapin, le visage d'une vieille femme ou même un joueur de football avec son ballon. Et une dernière observation facile à faire, c'est que ces motifs plus sombres sont toujours les mêmes, car la Lune nous présente toujours la même face, résultat d'un phénomène qu'on appelle la rotation synchrone. La Lune effectue une rotation sur elle-même dans exactement la même durée qu'elle effectue une révolution autour de la Terre. Et cela ne doit rien au hasard, mais à une lente synchronisation sur des millions d'années qu'on observe aussi pour d'autres satellites du système solaire.
Alors tout ça, Michel, on peut le voir à l'œil nu, mais qu'est-ce qu'on voit de plus avec une petite lunette ou un petit télescope, comme on pourra le faire lors des soirées de On the Moon Again ce vendredi?
Alors la réponse est simple, la même chose qu'a pu voir Galilée lorsqu'il a braqué pour la première fois sa petite lunette vers la Lune à l'automne 1609. Et pour le voir, il n'y a pas besoin d'un gros télescope, car sa lunette n'était même pas aussi puissante qu'une petite paire de jumelles actuelles. En les braquant vers la Lune, vous constaterez comme lui qu'elle n'est pas la sphère parfaite qu'on imaginait dans l'Antiquité, mais que comme les continents de la Terre, elle est couverte de reliefs, cratères et chaînes de montagnes. Avec de simples jumelles, on ne peut distinguer que les formations principales, comme l'arc qui borde la mer des pluies formée par la chaîne des Alpes et celle des Apennins, car on a donné à certains de ces reliefs des noms inspirés des montagnes terrestres. Pour les cratères, avec un faible grossissement de jumelles, hein, de 8 fois ou 10 fois en général, on ne peut guère voir que les plus gros, comme Copernic, presque au centre du disque lunaire, ou Tycho, plus dans le sud, qui avec ses lignes d'éjecta claires fait ressembler la pleine lune à un melon dont il serait la cicatrice du pédoncule. Tous les deux font presque 100 km de diamètre. L'avantage d'utiliser une lunette astronomique ou un télescope, comme ceux que les clubs d'astronomie vous prêteront ces prochains jours lors des soirées On the Moon Again, sera de pouvoir grossir beaucoup plus l'image, par exemple dans les 60 fois où on peut encore voir tout le disque lunaire en entier, ou 100 fois, 150 fois pour observer plus en détail certains de ces reliefs. Dans tous les cas, on ne regardera pas n'importe où, car les reliefs lunaires sont mis en évidence par un éclairage rasant qui augmente les ombres, donc près du lever ou du coucher du soleil, c'est-à-dire à proximité du terminateur, comme on appelle la ligne de séparation entre la partie éclairée et la partie sombre. Et proche de cette limite, on peut observer des éclairages spectaculaires, comme la paroi d'un cratère éclairé alors que le fond est encore totalement dans l'ombre, sauf éventuellement même le sommet de son piton central. Parfois, on voit un point brillant isolé à l'intérieur de la zone sombre, car c'est un sommet qui est éclairé alors que tout le voisinage est encore dans le noir. Avec des cartes, les astronomes savent trouver des reliefs particulièrement intéressants, comme des rainures, des dômes volcaniques, des vallées sinueuses qu'on croirait tracées par des rivières alors qu'il n'y a pas d'eau à la surface de la Lune.
Alors qu'est-ce qu'on pourra voir justement lors de ces soirées On the Moon Again ?
Alors malheureusement, je ne peux pas le dire avec précision, car d'un jour à l'autre, l'éclairage varie beaucoup sur la Lune et tout dépend de la date, donc aussi de la météo. Hein, par exemple, dans mon petit village, mon club organisera une observation soit le vendredi, soit le samedi, en fonction des prévisions météo. Ce que je peux dire avec certitude, c'est que de vendredi à dimanche, date officielle de l'opération, on aura dépassé le premier quartier et la Lune sera gibbeuse. On devrait distinguer facilement l'arc Alpes-Apennin et dans son prolongement le gros cratère Copernic avec ses parois intérieures présentant des terrasses. Au nord de la mer des pluies, on verra Platon, un gros cratère au fond plat gris foncé, éclairé différemment selon les soirées. À partir du samedi, c'est le golfe des Iris qu'on pourra observer, avec l'ombre portée du promontoire Laplace qui domine son extrémité est à près de 3000 mètres au-dessus de la mer. Relief déjà éclairé le vendredi soir. Le vendredi, il faudrait voir aussi le mur droit, une grande rainure de plus de 100 km de longueur qui a la particularité d'évoquer la figure d'un sabre avec des montagnes qu'il borde au sud représentant la garde. Encore plus au sud, c'est Clavius qui vaut le coup d'œil. C'est un grand cratère de plus de 200 km dont le fond comporte une série de cratères plus petits disposés en arc, comme rangés du plus gros au plus petit. On pourrait développer longuement tout ce qu'on pourra voir lors de ces soirées, mais je laisse le soin aux astronomes qui accueilleront le public de leur faire découvrir toutes les beautés des reliefs lunaires. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on ne peut pas voir une formation quand on le veut, mais qu'il faut choisir le soir où l'éclairage est le plus favorable pour bien la révéler, ce qui se produit deux fois par lunaison, donc seulement 24 fois dans toute une année.
Allez, toujours avec Michel Favré, c'est sa chronique astro numéro 88, troisième et dernière partie de la chronique. Michel, et vous allez nous parler du ciel du mois.
Voilà, on ne va pas parler que de la Lune, on va quand même évoquer ce qu'on peut voir d'autre dans le ciel. Et comme chaque mois, je renvoie nos auditeurs vers la rubrique ciel du mois de la section astronomie de notre site web, www.constellationsetgalaxiesaupluriel.org, pour voir les cartes du ciel, on ne peut pas montrer de cartes à la radio, et avoir plus de détails. Comme nous venons juste de passer le solstice d'été du 21 juin, jour le plus long de l'année, donc nuit la plus courte, ce début juillet voit la nuit arriver le plus tard de toute l'année, donc la période la moins favorable pour les observateurs du ciel nocturne. En effet, en ce moment, le soleil se couche un peu avant 22h et la nuit n'arrive que vers 23h15 et même après minuit si on attend un ciel bien noir. Les jours ayant commencé à raccourcir, ce sera une demi-heure plus tôt fin juillet, avec le coucher vers 21h30 et la nuit vers 22h45. En ce début d'été, en début de nuit, le ciel se partage en deux avec à l'ouest les constellations typiques du printemps, alors que celles de l'été occupent la moitié est. Côté printemps, on pourra reconnaître facilement le Lion, situé juste sous les pattes de la Grande Ourse, et déjà bien basculé vers l'ouest pour aller se coucher. C'est avec la fameuse casserole, formée par les étoiles les plus brillantes de la Grande Ourse, qu'on trouve facilement les deux autres grandes constellations du printemps, car en prolongeant l'arc de sa queue, on tombe sur Arcturus, l'étoile très brillante et légèrement jaunâtre de la constellation du Bouvier, et en poursuivant plus loin, Spica, l'étoile la plus brillante de la Vierge. Côté ciel d'été, ce sont trois étoiles brillantes qui forment le triangle de l'été, Vega, la plus haute, Deneb, la plus à l'est, et Altaïr, la plus basse, qui permettent de retrouver leurs constellations respectives de la Lyre, du Cygne et de l'Aigle. Si le ciel est assez noir, on pourra distinguer le long du Cygne et de l'Aigle le ruban laiteux de la Voie lactée, nous conduisant vers le sud à deux autres constellations bien reconnaissables, du Sagittaire et du Scorpion. En fin de mois, la situation aura notablement évolué, avec en début de nuit le Lion en train de se coucher, le Bouvier et la Vierge basculés vers l'ouest, et les constellations de l'été occupant la plus grande partie du ciel, et certaines de l'automne, comme Pégase, déjà en train de se lever à l'est. Côté planète, on ne peut les voir que le matin, où se poursuit leur balai des derniers mois. L'alignement de quatre planètes commence par Saturne, qui se lève en ce moment vers minuit, ce sera 22h en fin de mois, et se termine avec la très brillante Vénus, qui se lève un peu avant 5h. À peu près à mi-chemin entre les deux, la brillante Jupiter précède Mars, reconnaissable à sa couleur orangée. La Lune s'invitera le long de cette ligne formée par les planètes. Le matin du samedi 16, la Lune gibbeuse sera assez proche de Saturne. Le mardi 19, guère plus grosse que le dernier quartier, elle sera bien plus proche de la brillante Jupiter. Puis le gros croissant s'approchera de Mars le jeudi 21 et le vendredi 22. Et enfin, c'est le mardi 26 qu'un très fin croissant surplombera la très brillante Vénus dans les lueurs de l'aube. À noter qu'à partir de la semaine prochaine, le 11 juillet, un peu après minuit, et jusqu'au 1er août, on pourra revoir l'ISS traverser le ciel en soirée. On peut trouver les horaires précis et les cartes de trajectoire en fonction de son lieu d'observation sur le site Events Above. Et pour une fois, je parlerai d'un objet plus difficile à voir, mais qui pourrait devenir intéressant dans les prochaines semaines. Une petite comète, dont je sais que Corinne est friande. À ce sujet, je vais faire une petite parenthèse personnelle, car il y a un mois, j'étais en Italie lorsque la chronique que j'avais enregistrée était diffusée à l'antenne le 1er juin, plus précisément dans les Dolomites, où j'ai d'ailleurs vu depuis un belvédère d'altitude le massif de la Marmolada où s'est produite la rupture de glacier mortel dont on parle dans les médias ces derniers jours. Mais ça n'a pas grand rapport avec l'astronomie. Par contre, un peu plus avec les villes que j'ai visitées avant de revenir en France, et plus précisément Padoue, où Copernic a fait ses études dans l'université, où plus tard Galilée a enseigné pendant 18 ans. J'ai eu le plaisir d'y voir aussi la chapelle des Scroveni, entièrement décorée de fresques peintes par Giotto entre 1303 et 1306, et plus particulièrement la scène de l'adoration des mages, bien connue des astronomes, car elle a la particularité de ne pas avoir la fameuse étoile de Bethléem dans son ciel, où elle est remplacée par une comète, inspiré à Giotto par la comète de Halley qu'il a pu observer lors de son passage en 1301. Mais revenons à une comète plus discrète visible actuellement dans notre ciel et que j'ai observée au télescope ces dernières semaines, c'est 2017 K2 Pan-STAR. Ce numéro et ce nom un peu barbare viennent du fait qu'elle a été découverte en mai 2017 par le système de recherche automatique d'astéroïdes et de comètes Pan-STAR situé à Hawaï. Elle est actuellement d'une magnitude d'environ 7 à 8, ce qui pourrait la rendre visible dans une paire de jumelles si elle n'était pas si petite. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est en train de s'approcher de nous et atteindra le point le plus proche de la Terre sur sa trajectoire le 14 juillet. Donc d'ici là, elle ne peut que grossir et devenir plus lumineuse. Et il est possible qu'elle devienne encore plus visible ensuite, car si elle s'éloigne de nous, elle continue de s'approcher du Soleil, ce qui devrait augmenter son activité, donc la taille de sa queue et son éclairage par le Soleil, au plus près duquel elle passera le 22 décembre. Je ne serais pas étonné que cet été, elle puisse devenir perceptible dans des jumelles. En tout cas, le 14 juillet, à partir de 20h15, on pourra la voir sur le site web du Virtual Telescope Project 2.0, qui diffusera son image en direct. Et peut-être dans les télescopes pendant les soirées On the Moon Again, ou lors des Nuits des Étoiles, dont nous reparlerons lors de la prochaine chronique prévue juste avant, le mercredi 3 août, et sans doute aussi avec Corinne.
Alors justement, on va laisser Corinne s'exprimer, mais peut-être Michel, terminer votre chronique en expliquant On the Moon Again, quelle est cette opération, et donner deux ou trois infos, je crois, de assos comme JAL Astronomie et Vega de la Lyre, et après Corinne, bien sûr, va présenter avec force détail ce qu'elle va proposer avec l'association AG33. Donc rappelez On the Moon Again.
Alors à l'origine, On the Moon Again, c'est une opération mondiale qui a été lancée à l'initiative d'astronomes français en 2019, pour commémorer les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune. Et devant le succès de cette première édition, les organisateurs ont décidé de la renouveler chaque année, sauf en 2020 en raison de la crise sanitaire. Le principe de l'opération est de demander aux astronomes possédant un instrument, lunettes ou télescope, dont bien sûr les clubs d'astronomie, d'aller les installer près du public pour observer la Lune ensemble. Alors effectivement, en plus de AG33, on avait invité d'autres clubs de la région pour parler des animations. Alors, JAL Astronomie ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais ils m'ont fourni les informations. Ils sortiront leur télescope pour observer la Lune le vendredi 8 juillet à partir de 22h30 dans deux villes, à Martignas-sur-Jal, au grand espace vert du quartier des Pins, à l'avenue des Dragons du lotissement Astroparc et sur le parking du CCAS, et à Saint-Jean-d'Illac, au parc de la mairie. J'avais contacté aussi Vega de la Lyre, qui se trouve à Vert, qui ne prévoit pas d'animation particulière pour l'opération On the Moon Again, mais accueillera le public comme d'habitude à son observatoire de Vert le samedi à partir de 21h. Sur le site de On the Moon Again, on peut trouver toutes les animations inscrites pour l'opération, et j'ai vu sur l'agglomération bordelaise d'autres initiatives de particuliers hors des clubs, Astro, en particulier à Bègles et à Bordeaux. Donc les auditeurs peuvent aussi aller voir sur ce site.
Voilà, merci Michel, à la fois pour la chronique et ces quelques infos. Alors Corinne, certaines associations, clubs d'astronomie vont pas forcément participer à cette belle opération, j'allais dire, je sais pas comment présenter, On the Moon Again. Mais voilà que l'association, c'est un rendez-vous que vous n'allez surtout pas manquer. Alors peut-être dire quelques mots sur l'association AG33 et après nous présenter ce que vous avez préparé pour On the Moon Again et particulièrement ce vendredi. Donc en quelques mots, association de passionnés que vous présidez.
Exactement, nous sommes une association essentiellement composée d'astronomes amateurs avertis. En fait, on a créé cette association au départ juste pour faire des animations. Il fallait être en association, assuré et tout team. Donc voilà, on a été poussé à 10 à créer cette association et aujourd'hui nous sommes 40. 40 qui se répartissent les animations à travers toute la Gironde et parfois en décalé sur les Landes. Donc voilà, notre but principal, c'est de véhiculer l'astronomie. Mais attention, toujours en nous faisant plaisir, avant tout pour nous.
C'est de la passion.
Exactement.
Alors est-ce que quelqu'un, parce que là, comme vous employez certainement comme averti, quelqu'un qui peut avoir cette passion, mais il s'est dit « Ouh, j'ai pas les mêmes connaissances, voilà, je suis passionné, mais...
Bah, » par exemple, déjà...
Est-ce qu'on peut rejoindre l'asso? Le minimum, alors, c'est d'être passionné, de se sentir impliqué et de partager ce...
Oui et non, parce qu'en fait, quelqu'un qui est juste curieux, par exemple, une lunette... et qui a envie de partager avec nous, ben c'est ouvert. Il peut venir à toutes nos activités, surtout les soirées d'observation que nous faisons au mémorial de la ferme de Richemont. Et là, on ne demande pas d'adhésion pour ça. C'est partage du ciel, c'est gratuit. Il y a aucune condition pour ça. Ce qu'il faut, c'est adhérer si on veut faire de l'animation. Voilà, tout simplement. Si cette personne avec cette lunette qui sait au moins viser la Lune, par exemple, pour ce week-end-là, eh bien, c'est parfait, il peut adhérer et donc là, à ce moment-là, se mêler à nous et être couvert par l'assurance. Mais attention, On the Moon Again, ça a aussi cette particularité que nous acceptons aussi tous les astronomes amateurs qui veulent se joindre à nous sans être de l'association. Voilà, donc il faut que là, pour une fois, pour cette opération-là, nous n'allons pas au mémorial de la ferme de Richemont, nous allons sur le pré-communal du centre-bourg de Socatz. Pourquoi ? Tout simplement pour se rapprocher de la population de Socatz déjà, et ensuite d'autres villages voisins, parce que tout le monde n'a pas envie de sortir du village, d'aller au milieu des champs de maïs pour observer les étoiles ou la lune. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se rapprocher des personnes qui peut-être n'ont pas de voiture, ou tout simplement de femmes seules qui n'ont pas forcément envie d'aller se mêler au milieu des champs de maïs, au milieu de... Comme l'astronomie amateur est quand même représentée en grande majorité par des hommes, je vous dis que ce n'est pas toujours facile pour une femme de franchir le pas. Mais mesdames, je vous y encourage fortement, n'ayez pas peur, ces hommes-là sont sans danger pour vous. Au contraire, ils vous montreront des étoiles, mais dans le bon sens du terme.
Voilà, donc c'était bien de préciser le champ du lieu pour être au plus près des habitants. En même temps, avec l'association, ça fait quelques années que l'asso existe, voilà, que vous menez des actions, donc je pense qu'on vous connaît à minima. Mais c'est vrai que c'est une belle initiative d'être au plus près des habitants. Alors, vous nous avez précisé le lieu, la date vendredi.
Alors, vendredi, oui.
Alors, parce ça que... se passait, il y a... vous avez des horaires, des animations?
Non, alors oui, les horaires, c'est surtout à partir de 21h30. Hein, on va être au plus près du coucher du soleil, quand même.
Bien sûr, oui.
Et ben voilà, c'est cette soirée-là, c'est comme toutes les soirées. Hein. En ce moment, c'est pas avant 21h30, et encore, il va falloir attendre. Quoi, pour la lune, non, on peut la voir même quand le soleil n'est pas couché, donc ce côté-là, c'est pas un problème. Il faudra par contre, si on veut voir cette comète, attendre qu'il fasse un peu plus noir, c'est-à-dire vers 23h, 23h30.
Voilà, donc les passionnés vont rester. Après, le grand public, bon, il fera beau en même temps.
Il fait beau et chaud. Alors là, bon. Il va faire beau et chaud tout le week-end. Donc, n'hésitez pas à y venir. Le samedi, on est sur une animation privée. Du coup, on ne sera pas dispo. C'est pour ça qu'on a décalé au vendredi. Sinon, d'habitude, on le fait sur plusieurs sites. Il y a un site où on aurait dû être et on ne le sera pas à cause de la Covid, malheureusement. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire de plus là, sur le On the Moon Again, non, oui, on va aussi, oui, accueillir les visiteurs en leur offrant d'entrée une carte de la Lune qui nous a été offerte par l'opération On the Moon Again. Comme elle s'est associée à la SAF cette année, la Société Astronomique française, bon, enfin, voilà. Il faut dire aussi que nous, on est tellement passionnés que même en 2020, quand l'opération ne s'est pas faite à l'échelle mondiale, on l'a quand même fait, nous. Voilà, on a sorti les télescopes, on a mis les masques et on s'est mis sur le prix.
Ça, c'est la passion, puis se dire, voilà, c'est une belle opportunité. Michel, je vais vous redonner la parole, il n'y a pas de souci. Juste préciser qu'il y a un site internet onthemoonagain.org. Alors, On the Moon Again, c'est en anglais, mais là, c'est sans français. Donc là, j'ai juste jeté un petit œil. D'ailleurs, sur le site, on peut retrouver, Corinne ou Michel, toutes les animations prévues. Ça permet au club d'amateurs ou peut-être un simple passionné qui se dit, tiens, bien, ce week-end, je suis à tel endroit. Ça sert à ça aussi. J'ai pas tout regardé. Hein.
Oui, en fait. Effectivement, par exemple, quand nous, on fait des soirées d'observation mémoriale, par exemple, de la ferme de Richemont à Socatz, il y a des astronomes amateurs qui ne font pas partie de clubs, qui viennent nous rejoindre pour partager. Mais eux, par exemple, chez eux, l'idée, c'est de pas trop bouger, en fait, d'où on est. Hein. Chez eux, ils sortent leur télescope et ils invitent leurs voisins à venir voir la Lune. C'est ça, l'idée d'On the Moon Again.
C'est le
vraiment...
partage.
Le partage et surtout, rester à proximité, soit de son chez-soi, soit du lieu où on observe d'habitude, mais dans l'idée qu'il y a du passage. Si on le fait en haut de la dune du Pilat à 23h, ça ne va pas marcher, hein, il n'y aura personne. Donc l'idée, c'est vraiment le partage et être au plus près de la population. Et je vous dirais que dans des villes ou villages qui ont les lampadaires allumés, c'est pour regarder la Lune. Et elle ne souffre pas de la concurrence des lampadaires de la ville. Donc voilà, je vous encourage, oui, à aller voir cette carte des animations prévues et des observations, car c'est vraiment intéressant de regarder la Lune au télescope.
Voilà, Michel, vous voulez compléter
Oui, ben, au fur et à mesure que Corinne parle, il y a des idées qui me viennent. D'abord, sur cette histoire du principe de l'opération The Moon Again, qui consiste à aller à la recherche du public, hein, vers le public, plutôt que de les faire venir sur nos sites d'observation. Je trouve que c'est une initiative intéressante des organisateurs, surtout pour la Lune, où, comme le disait Corinne, il n'y a pas besoin d'un ciel débarrassé de toute pollution lumineuse. La Lune, c'est suffisamment brillante pour qu'on puisse la voir, même quand il y a quelques lampadaires pas très loin. Et pour donner un petit témoignage personnel, ça me rappelle quelque chose. Quand j'étais au Chili, il y a pas mal de temps, j'ai fait un petit voyage au Chili. En pleine ville, à Santiago du Chili, par exemple, il y a des astronomes qui sortent leurs lunettes sur le trottoir et moyennant 100 pesos, ce qui devait faire à l'époque un peu moins d'un euro, on peut regarder la Lune ou parfois Saturne quand il y a Saturne dans le ciel. Concernant le site web, une petite précision, On the Moon Again, effectivement, comme c'est une opération mondiale, ça parle anglais. Et quand on arrive sur le site, on tombe sur le site en anglais. Donc il faut faire attention qu'en haut à droite, il y a un petit bouton FR pour le traduire en français. Mais tout n'est pas traduit. Et donc pour trouver disons, les textes sont traduits, mais pas les boutons, les menus, etc. Ce qui fait que pour trouver les animations, il y a effectivement une carte interactive qui permet de zoomer. D'ailleurs, on se rend vite compte qu'il y a une grosse partie sur la France, hein, parce que l'initiative était française, mais Il y a des opérations on the moon again un peu partout dans le monde. Et le bouton pour trouver cette carte, c'est find an event, hein, donc trouver un événement, mais c'est pas traduit en français. Et dernier point concernant le choix de la date, effectivement, quand les clubs ont les moyens de faire plusieurs soirées, ben tant mieux. Cette année, AG33 a choisi le vendredi 18 pour des contraintes de planning. Mais finalement, c'est un bon choix.
Vendredi 8.
Vendredi 8, oui.
Oui. Ouais, non, mais je sais qu'il y a tellement d'animations que.
Le
pourquoi
vendredi,
pas le 18,
le
mais
vendredi
là, c'est
8,
ce vendredi,
en fait, c'est après-demain, pour faire simple.
Oui, vendredi 8 juillet.
Moi, j'ai dit que dans mon club, on s'était laissé le choix du vendredi au samedi suivant la météo. Mais comme il va faire beau les deux soirs, on va sûrement aussi choisir le vendredi. Tout simplement parce que, par rapport à ce que je racontais tout à l'heure sur les reliefs qu'on peut voir sur la Lune et tout, c'est le vendredi où ce sera le mieux éclairé, alors que les mêmes reliefs seront moins bien le samedi. En plus, le samedi, la Lune sera plus grosse, donc plus gênante pour la lumière qu'elle produit dans le ciel, ce qui fait que si on veut regarder un petit peu d'autres choses que la Lune, comme la petite comète dont je parlais, ou des galaxies, ou des choses comme ça, bah, ce sera un peu mieux aussi le vendredi que le samedi. Donc le vendredi, c'est un bon choix pour cette opération.
Oui, et puis chacun peut s'adapter hein, en fonction de l'implication. Il y a peut-être des villes où il y a déjà une fête locale, donc c'est bien d'avoir un focus. Allez, il nous reste quelques minutes. Je ne sais pas si Corinne voulait compléter. On aura l'occasion de se revoir. Ça, c'est le rendez-vous traditionnel des Nuits des Étoiles. On aura Cap Science qui viendra à un moment donné, et puis on retrouvera Michel et vous. Je crois qu'on a calé avec vous, Corinne, la date.
De 3
puis,
août.
Voilà, puis je crois que l'invitation est lancée aussi, soit pour
mais
les
Vega,
associations.
Je pense que Vega viendra parler aussi de ses animations.
Voilà.
Jal, je crois qu'ils ne seront pas disponibles, mais on parlera de leurs animations.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que comme je le dis à chaque fois, il n'y a aucun sens que je parle ici de ce que je fais en Dordogne. Pour l'agglomération
oui,
bordelaise, c'est normal que ce soit les clubs de la région qui viennent
bien
parler.
Sûr. Voilà, donc on aura l'occasion de se voir à la Nuit des Étoiles, mais Corinne, par rapport à Swan the Moon Again, ou peut-être une actualité entre On the Moon Again et la Nuit des Étoiles, je ne sais pas si vous avez d'autres actualités, d'autres infos à nous livrer.
Déjà, juste pour finir avec On the Moon Again, j'ai été consulter cette fameuse carte interactive et j'ai vu que tu as dit qu'il y avait une animation sur Bordeaux. En fait, c'est Arlette Legg qui est la présidente de la Société Astronomique de Bordeaux. Donc, qui va sûrement sortir un télescope, soit devant, je pense que elle va se mettre devant leur siège, l'hôtel Bardino, ou dans le jardin public, mais ça m'étonnerait qu'il soit ouvert la nuit quand même.
Ah, peut-être un titre exceptionnel, mais c'est vrai que c'est une remarque pertinente.
Non, mais n'hésitez pas à vous renseigner. Hein, quand on clique sur les événements, il y a forcément des coordonnées de contact. Donc,
voilà.
N'hésitez pas.
Parce que je n'ai pas tout regardé. Je suis honnête. Je suis allé sur le site voilà, qui est richement illustré, mais je ne suis pas rentré dans le détail absolu.
Alors,
oui, Michel.
Pour nos éditeurs, On the Moon Again, donc il y a le site spécifique de l'opération. Mais quand on cherche des lieux où aller faire de l'astronomie avec les clubs, le bon site, c'est l'AFA, hein, Association Française d'Astronomie, qui est un peu la fédération de tous les clubs astronomiques de France. Et là, on trouve là aussi une carte interactive qui indique toutes les animations.
En
c'est-à-dire
français.
Que quand AG33 fait une soirée ouverte au public à SOCAT, elle se trouve sur la carte de l'AFA à n'importe quelle date, que ce soit une opération comme On the Moon Again ou comme Les Nuits des Étoiles, ou que ce soit un autre moment de l'année. À nous aussi, on le fait en Dordogne de temps en temps. Il y a aussi des rendez-vous en octobre, par exemple, avec le jour de la nuit ou la fête de la science. Mais il n'y a pas que ça. Si on cherche une animation à thématique astronomique, voire à contacter un club d'astronomie, c'est sur le site de l'AFA qu'on peut trouver le plus d'informations.
Voilà, et puis on peut retrouver des informations, constellations et galaxies, voilà, que je m'applique.org. On peut retrouver toutes les chroniques et des infos. Et Corinne, je présume également sur réseaux sociaux, site internet.
Voilà,
après,
le site internet.
Après, il faut avoir le temps d'alimenter, bien sûr.
AG33.fr, où il y a tout notre calendrier d'activités qui est mis à jour quand on a une nouvelle animation ou sortie. Quoique les sorties, à part des spéciales. Comme pour les éclipses de lune, la dernière, hein, on met, ou des comètes, justement, qui passeraient, qui deviendraient visibles à l'œil nu. Oui, effectivement, on peut rajouter. Mais bon, notre calendrier est déjà fait et accessible sur le site ag33.fr, la page observation. Une autre chose, on est aussi sur Facebook, Twitter, bon, enfin, voilà, hein, c'est à jour aussi. Et ensuite, juste revenir, je sais pas, ça fait un peu loin, peut-être, pour les auditeurs de Haute Radio. Mais ceux qui ont une voiture, je vous encourage fortement à venir à Saint-Maixent le 22 juillet, où nous allons faire une petite répétition de Les Nuits des Étoiles au domaine de Malaga. C'est un domaine avec un château, il y a un grand parc, et Cap Science sera présent aussi, où on fera, mais comme pour la Nuit des Étoiles, des ateliers, des conférences et bien sûr de l'observation. Donc là, il n'y aura pas de lune du tout. Et ça sera intéressant, sûrement, pour observer le ciel profond et sûrement même la comète. Voilà, donc là, effectivement, alors c'est pas loin de Langon, pour ceux qui connaissent pas Saint-Maixent. Si vous avez une voiture, je vous encourage à directement les appeler pour réserver. C'est gratuit, mais il faut réserver parce que le domaine a une capacité limitée en accueil. Et donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à Saint-Maixent, au domaine de Malaga, le 22 juillet.
Très bien. Bah, écoutez, sauf si vous voulez dire un dernier mot, voilà, que j'ai juste le temps de faire un tout petit agenda, mais voilà, on a bien priorisé les invités. Donc, si on a à peu près tout dit aujourd'hui.
Oui, oui.
Voilà, ben en tout cas, merci à tous les deux, hein, Michel et Corinne. Donc, Michel, on se revoit, rappelez-moi la date.
Le 3 août.
Voilà, donc on parlera Nuit des Étoiles et on aura Cap Science, je crois, également quelques jours avant. Ça permettra d'avoir plein de belles infos sur ces Nuits des Étoiles. Voilà, c'est au pluriel. Encore merci à tous les deux.